Vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce samedi pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier. Alors en ce jour de printemps, on a eu envie de vous transmettre un peu de lumière, un peu de soleil. On a eu envie de comprendre ce qui se passe quand on traverse l'ombre dans notre vie. Évidemment, vous le savez comme moi, ce n'est pas tout le temps le nirvana, nos existences. Il y a des moments, comme disait Arletty, il y a des hauts et des bas, je préfère les hauts. Mais il y a des moments d'épreuve, il y a des moments difficiles et on a eu envie de comprendre comment ces épreuves-là, on peut les transformer en atouts. Et pour vous éclairer tout au long de l'émission, nous avons l'insigne honneur d'avoir une grande spécialiste de la question qui nous commet un livre magnifique et je pèse mes mots, Charlotte de Silguy, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Et évidemment aujourd'hui nous avons la chance d'avoir d'autres invités et passionnants aussi. On a un spécialiste des réseaux, des networks, qui a fondé un network original qui s'appelle Alexandre Favre. Alexandre, bonjour Alexandre.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Et on a un troisième invité prestigieux qui fut en son temps un grand champion d'athlétisme et qui a été champion de France et qui maintenant fait complètement autre chose, Benoît Idrissou. Bonjour Benoît.
Bonjour Christophe.
Vous savez que c'est une émission interactive, vous pouvez nous appeler, vous pouvez poser toutes vos questions à Charlotte, à Alexandre, à Benoît et à moi, à la réalisation, notre grand Julien Delanoë. Vous êtes au bon endroit sur Dynamique Radio, on est là avec vous pendant un long moment. Alors Charlotte, on va commencer par vous. D'abord parce que j'ai entre mes mains votre magnifique livre chez Hachette, Transformer ce qui vous plombe en trésor. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réfléchir à ces questions-là, Charlotte de Silguy?
Je ne sais pas si c'était une envie au départ, c'était plus un besoin existentiel depuis que je suis toute petite de comprendre les épreuves qui m'arrivaient à moi, qui arrivaient aux gens bien autour sûr de moi et puis sur la planète. J'avais vraiment cette question, mais pourquoi des coups durs, voire des vraies atrocités peuvent survenir? Et ça m'a généré une vraie quête de comprendre la raison d'être des épreuves. Alors cette quête a duré longtemps, elle a duré une trentaine d'années, multiforme. C'était les livres, c'était les introspections en moi-même.
Alors pas quand, sur soi,
pas quand j'avais 12 ans, hein, mais un peu plus tard. Puis des formations, des stages, beaucoup de choses dans les livres et dans les sagesses et les cultures du monde, parce que j'étais passionnée par des façons de penser très différentes de la mienne. Donc j'ai eu un parcours aussi en Asie, en particulier en Chine. Et puis cette quête, hein, ce besoin de rechercher le sens des épreuves, ben ça m'a donné quelques clés qui m'ont enthousiasmé, et ben ces clés, j'ai voulu les partager.
Les transmettre. Quand on écrit un livre, on livre et on se livre. Alexandre, enfin vous, à la base, vous aussi, vous avez changé complètement d'orientation et de métier. Vous étiez, si je ne m'abuse, dans l'industrie, directeur général, c'est ça. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait que vous avez eu envie de changer. Alexandre, expliquez ce que vous faites maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
Merci Christophe. Eh bien, effectivement, après une carrière de 25 ans à des postes de direction commerciale ou direction générale dans différentes industries, j'ai eu envie de complètement changer de vie. J'ai surtout eu envie de donner du sens à ma vie professionnelle et j'ai créé un club de networking assez unique en son genre qui s'appelle le CGBB, le Cercle des gens bien et bienveillants.
C'est beau.
Dont la vocation première, c'est la création de liens et c'est surtout le dépassement de l'entre-soi. J'ai la conviction que c'est en côtoyant la différence qu'on prône et qu'on contribue à un monde plus tolérant et plus inclusif.
C'est ça. Et il existe depuis quand ?
Depuis 2018.
Alors, Benoît Idrissou, tout de même aussi, vous avez eu un long parcours de champion hein, dans le sport, l'athlétisme. En l'occurrence, c'était quelle
discipline ? C'était saut en longueur.
C'était le saut en longueur. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? À quel moment il y a eu un tournant dans votre vie, Benoît ? Championnat de France, champion de France.
Championnat de France, équipe de France junior, effectivement.
Ouais.
Bon, c'est plutôt jeune, 2005-2008. Mais voilà, c'est des choses qui permettent de construire et puis de faire la passerelle beaucoup avec la partie commerciale en fait que j'utilise aujourd'hui. Je suis agent d'assurance.
Vous êtes entrepreneur maintenant.
Voilà,
vous êtes
entrepreneur, patron effectivement, pour une compagnie suisse. Et de ce fait, bah, c'est un dépassement de soi, c'est une rigueur, c'est plein d'atouts.
Mais alors, pour faire un pont avec l'œuvre de Charlotte, dont le sous-titre, et on va y venir, sur vos blessures sont la clé de votre destinée, il y a eu des blessures.
Évidemment.
À la fois, donc, si on peut pas livrer une
physiologique, et certainement psychologique aussi.
Et psychologique, et une rupture amoureuse à ce moment-là. Enfin, bref, des blessures qui ont fait que vous avez changé de vie.
Oui.
Vous, en aparté, Alexandre, après on posera la question à Charlotte, vous dites que chose qui vous a énormément perturbé, c'était le 13 novembre 2015. Là, il y a eu une prise de conscience de quoi, Alexandre Favre? Il y a eu quelque chose là. Il y a eu ça vous a blessé personnellement quasiment.
Exactement. Je veux sans rentrer dans les détails très très personnels concernant cette soirée assez horrible. 13 novembre 2015, j'avais un peu plus de 40 ans et je me suis rendu compte ce jour-là qu'on pouvait mourir à la terrasse d'un café en buvant un verre avec sa femme ou des amis et j'ai trouvé que ma vie qui consistait à passer 90% de mon temps à faire du chiffre d'affaires et de l'EBITDA pour des actionnaires n'avait aucun sens si je devais me faire tuer à la terrasse d'un café le lendemain.
La terrasse du Carillon, en l'occurrence, qui était près de mon ancien centre de formation. Charlotte, c'est vraiment, on commence déjà au cœur du début de votre livre. Le sous-titre de votre livre, je le répète, c'est « Vos blessures sont la clé de votre destinée ». Et tout le début, c'est les parts d'ombre, n'est-ce pas ? Il y a une dimension jungienne dans votre livre. Vous pouvez expliquer aux auditeurs de l'émission « Pour vivre heureux, vivons coachés ». Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de blessures là dont nos deux autres invités nous ont parlé ? Puis, 8 milliards d'humains, finalement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Charlotte de Sidly.
Alors, je ne vais pas expliquer, je vais juste partager mes découvertes. Et puis, chacun prendra ce qu'il a à prendre parce que on n'est pas forcément tous prêts à entendre que les pires atrocités et que les pires douleurs sont la source de notre plus grand bonheur. C'est pas forcément toujours à entendre et sûrement pas quand on est dans le côté aigu de la tourmente.
Bien
en
sûr.
Fait. Moi, je me suis basée sur mes magnifiques découvertes chez les anciens, chez les anciens sages. Donc je ne vais pas tout expliquer ici.
Votre livre est très riche en la matière.
J'en fais une synthèse et j'essaie de rendre tout ça accessible parce que pour partie, c'est pas que c'est complexe, mais il y a beaucoup de métaphores dans les mythes du monde. Donc il y a une interprétation personnelle à en faire, comme dans un certain nombre de blockbusters américains, qu'on parle de Star Wars ou qu'on parle même de Harry Potter.
Oui, vous faites référence à Harry Potter.
Ça parle de la même chose.
Il y a des archétypes derrière en fait, une dimension jungienne. Les archétypes sont là en fait.
C'est ça. Ouais. Et en fait, un des points de départ simples, on le trouve dans la tradition amérindienne Ho'oponopono.
Ah, que beaucoup de gens connaissent.
Ouais. Et c'est ce qui m'a passionné quand j'ai fait la lecture de toutes ces sagesses, pas toutes, mais ça serait un peu prétentieux, mais beaucoup de sagesses du monde. Ce qui est fabuleux et qui m'a enthousiasmé, donc, c'est qu'il y a des liens entre elles. Il y a des fils rouges, il y a des choses communes, même si c'est pas dit.
On trouve des correspondances.
Que ce soit la Bible, que ce soit le soufisme, que ce soit même l'islam, que ce soit les mythes grecs, que ce soit les traditions amérindiennes ou d'autres encore, il y a des fils rouges. Et donc, cette tradition Ho'oponopono, elle dit quelque chose qui, en outre, semble corroboré par une certaine interprétation de découvertes récentes en physique quantique et qui est dit déjà dans l'Égypte ancienne. C'est que le monde extérieur, qu'on va appeler le macrocosme, est le reflet de notre microcosme. On est en univers.
C'est à l'intérieur de nous.
Voilà, et qui se projette.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, Charlotte de Sidly, vous citez Rumi, le grand sage, qui dit, vous dites page 25, cette phrase magnifique, ces douleurs que vous ressentez sont des messagers, écoutez-les, la blessure, c'est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. Je vais vous proposer qu'on passe une page musicale. Restez avec nous, c'est passionnant. Surtout, téléphonez-nous, posez-nous toutes les questions. On va découvrir ces histoires de blessures, tout ce que Charlotte de Sidly nous dit, et aussi nos deux autres invités. Restez avec nous. À tout de suite.
Pour quelques heures, la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et
s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Ici à jamais des saisons pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livre, je franchirai tous ces murs.
Le grand Jean-Jacques Goldman, et oui, qui nous dit qu'on n'a pas de fatalité là où on est né, on peut s'en sortir, je m'en sortirai, je la promets. Vous êtes très nombreux à appeler, on a un premier Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Julie, je crois, c'est ça ?
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Yvon Coaché. Donc vous savez que notre invité central, c'est Charles de Silguy. Il y a aussi Alexandre Favre et Benoît Idrissu. Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question ? On vous écoute, Julie.
Oui, tout à fait. Je voulais vous demander, on vit dans un monde assez binaire, finalement bon, mauvais, positif, négatif, agréable, désagréable. Et je voulais savoir comment vous pensez sortir, comment on peut sortir de ce paradigme de binarité pour créer un nouveau paradigme où justement ça serait moins clivé entre finalement la lumière et l'obscurité, entre des
comment sortir de cette dualité, Julie, d'une certaine manière. Exactement. C'est ça. Charles de Silguy. Très belle question, n'est-ce pas, de Julie ?
Merci.
On commence bien l'émission.
C'est une question qui tout de suite, moi, me propulse dans des considérations très existentielles, des philosophies que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est pour moi hyper logique qu'on n'ait pas envie de choses difficiles, qu'on n'ait pas envie d'ombre, qu'on n'ait pas envie que les choses soient défectueuses, sentent mauvais, etc. Et c'est tout l'objet de ma quête, c'est justement, il y a des choses intéressantes dedans. La métaphore que j'ai envie de prendre, c'est du fumier. Bon, alors, ça sent mauvais.
Métaphore du fumier.
On n'a pas envie d'y aller. Oui, mais le fumier, c'est aussi autre chose que quelque chose qui pue.
C'est vrai que
mauvais.
Les agriculteurs utilisaient le fumier
et
pour
c'est quelque chose qui fait pousser des plantes.
Ouais.
Et la métaphore de ça, c'est ce que disent les sagesses anciennes, c'est la vraie lumière, le vrai amour, la vraie unité. C'est pas que la lumière, en tout cas sur cette terre, c'est le mariage alchimique de l'ombre et de la lumière. Et donc, dans la symbolique, tant qu'on la lumière et l'ombre s'affrontent, tant qu'on les voit comme des dualités qui vont pas ensemble, qui sont incompatibles, eh bien, il y aura cette séparation-là. C'est comme les deux revers d'une même pièce.
Comme le yin et le yang.
Bah, c'est exactement.
Vous citez le yin et le yang de votre.
C'est exactement le yin
et
le
tao.
Yang.
On va en y venir.
Et en fait, pour prendre une image beaucoup plus simple. C'est si on est de la couleur blanche et qu'il n'y a pas de contraste du noir, on ne peut pas savoir qu'on est blanc.
Alexandre Favre, justement, quand vous créez ce nouveau network, il y a le, j'adore le titre, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, Serge Auditeur, j'en fais partie tellement j'ai adoré le nom, donc je suis membre du CGBB, cercle des gens bien et bienveillants. Ça doit vous parler, cette idée de, d'aller vers de la bienveillance, donc vers de la lumière, Alexandre Favre.
Ah ben, en tout cas, ce qui me parle, c'est d'aller vers la différence. Aujourd'hui, c'est l'envie d'aller vers la différence qui permet déjà de savoir qui on a envie d'être. Donc ça me paraît fondamental. En fait, je crois qu'on ne peut pas savoir qui on est, ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire si on n'a pas plusieurs propositions en face de nous.
Benoît Edrissu, pour dire à nos auditeurs, vous êtes métis, ce qui est extraordinaire, que vous avez un mélange d'Européens, de maman française bourguignonne, je crois, quelque chose comme ça, et de papa ghanéen. Donc vous avez connu aussi le métissage dès le début. Et vous avez appris la part sombre dès l'école avec, vous avez subi le racisme, je suppose.
Forcément, un petit peu.
En plus, vous étiez en province, vous disiez à un moment donné en off que vous étiez le seul comme ça, dans la province du côté d'Auxerre. Comment vous voyez ça, vous, l'apprentissage de la différence, de la part de l'ombre chez l'humain?
Bah, c'est un petit peu ce qu'on disait au démarrage, c'est qu'effectivement, c'est, en fait, on le voit comme une faiblesse au démarrage. Enfin, quand j'étais jeune, je voyais ça comme une faiblesse. Et en fait, ça m'a permis d'avoir un leitmotiv aujourd'hui. C'est de se dire, c'est à cause de cette difficulté-là que ça m'a fait grandir et ça m'a fait voir les choses autrement. Et finalement, je remercie même aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir vécu ces choses-là, parce que c'est ce qui fait que je suis devenu l'homme d'aujourd'hui, en fait.
Voilà. C'est ça. Comment ça vous parle tout ça, Julie?
Bah, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, pour sortir de cet ancien paradigme et arriver dans un nouveau paradigme, c'est créer de l'alliance.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, moi, je suis un homme de la formation continue depuis plus de 35 ans. Et je fais toujours commencer mes stages, que j'ai 10 stagiaires, 15 stagiaires, 20 stagiaires ou 40 stagiaires, par un fil. Et je leur fais tous toucher le fil. Et je leur dis toujours, parce que ce que dit Charlotte, elle le développe, elle a une approche jungienne aussi, et moi aussi je suis profondément jungien. Jung avait créé ce concept, chers amis auditeurs, de l'unus mundus, le monde un. Et cette dimension unaire, chers amis auditeurs, est quelque chose de fondamental. Dans une époque où deux, c'est pas que du couple, c'est pas que du duo, deux, c'est déjà le risque du conflit et le risque de la guerre. Et donc, cette idée qui touche le même fil, je leur dis, voyez, il y a du un entre nous. Comme là, il y a du un entre nous, on fait la même émission, que ce soit Julie qui est au téléphone, Charlotte, Alexandre, Benoît, Julien, sans qui cette émission ne pourrait pas exister, et vous, chers auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux le samedi. Autrement dit, il y a cette phrase magnifique de Flaubert, je vais faire mon Lucchini au petit pied, mais vous le savez, il y a une phrase magnifique de Flaubert dans le journal qui dit « Ce ne sont pas les perles qui font le collier, mais le fil ». On va vous embrasser, Julie, d'accord? Méditez bien cette phrase qui rejoint celle que vous venez de dire et à très vite et likez les pages de l'émission. À très bientôt. On vous embrasse, Julie.
Merci. Au revoir. Au revoir.
La grande Gloria Gaynor qui nous parle d'I Will Survive. Oui, parfois une rupture amoureuse, il faut y survivre. Et elle lui dit, elle va y survivre. Vous êtes très nombreux à appeler. Vous voulez vraiment poser des questions à Charlotte de Silgui. On a une nouvelle radio coachée.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Stéphanie, nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio. Vous savez que notre invitée c'est Charlotte de Silgui. Vous connaissez son livre évidemment. J'ai deux autres invités que je vous présenterai après. Quelles questions avez-vous envie de poser à Charlotte de Silgui?
Alors moi ma question c'est que j'ai souvent l'impression que les épreuves de mes ancêtres s'invitent dans ma vie, qu'il y a de curieuses répétitions et notamment dans la lignée des maladies récurrentes.
Ah oui.
Et du coup je me demande comment puis-je imaginer faire de l'or avec cela.
Mon Dieu, alors là on arrive à la psychogénéale, enfin à les ancêtres. Charlotte Desquilles, vous avez des lectures de ça, un peu comme mon ami Natacha Calestrémé ou d'autres, vous avez des lectures d'histoires qui pourraient revenir de génération en génération, Charlotte de Silgui?
Oui, en effet, parmi les traumas qui nous arrivent aujourd'hui, il y en a qui nous renvoient à des blessures d'enfance qui se répètent.
D'accord.
C'est comme si les traumas, les difficultés, les épreuves qu'on vit aujourd'hui, quelque part, sont comme une réplique d'une dissonance, d'une blessure dont on s'est imprégné quand on est enfant. Mais quand on est enfant, on porte, et encore aujourd'hui, on porte en nous tout nos patrimoines génétiques transgénérationnels. On sait aujourd'hui, les chercheurs suisses l'ont démontré il y a une quinzaine d'années, que les traumas non résolus de nos ancêtres reste gravé dans l'ADN, et on le voit physiquement
dans l'ADN.
Ce qui veut dire que si on a une grand-mère qui a vécu un inceste, ou un grand-père qui a été traumatisé par des actes de guerre, on porte ça en soi, on porte les culpabilités, les non-dits, les trahisons, les maladies, les guerres, et j'en passe, et des meilleurs. Et nous, aujourd'hui, on est porteurs de ça. Et ça fait partie de l'ombre, comme c'est dit dans la tradition chinoise, notre âme, elle choisit ses parents dans un but précis qui va devenir comme un moule qui va traverser lumière, qui nous lègue, heureusement qu'il y a de lumière, et de l'ombre.
Alexandre Favre, on a un problème avec le téléphone de Stéphanie, techniquement, que ça vous parle tout ça vous savez que nos ancêtres ont pu nous toucher et sont toujours là en nous?
Est-ce que ça me parle? Très honnêtement, non, pas vraiment. Mais j'ai déjà entendu des gens qui expliquaient ça. Donc, je veux bien croire que ça existe. Mais est-ce que ça me parle? C'est plus complexe.
C'est intéressant pour vous. Et Benoît, alors, Idrissi.
C'est assez marrant parce que c'est des sujets sur lesquels je me suis posé des questions il y a quelques mois, en fait. Où on parle par exemple des anakashiques, de toutes ces choses-là en fait. Donc c'est un sujet qui me parle, voilà. Après, je suis pas encore, j'ai pas encore tout compris et je pense qu'on peut pas tout comprendre de toute
façon.
Je m'interroge avec mon épouse, très régulièrement sur le suivi de nos ancêtres et ayant un peu voilà aussi d'origine africaine en soi, je veux pas toujours mettre tout au mysticisme. Mais oui, les ancêtres sont présents.
Ce qui est sûr, c'est que Charlotte, dans les premiers chapitres de votre livre, vous référez à énormément des anciennes traditions, on est d'accord, le Tao et tout ça. C'est vrai aussi que dans ces visions-là, il y a une dimension un peu bouddhique qui dit qu'on choisit nos parents, notre âme se réincarne en choisissant tel type de parents pour faire un travail, pour faire évoluer notre âme. Et donc, même quand on choisit une famille avec beaucoup de guillemets dysfonctionnelle, voire toxique, avec des parents très toxiques, je rappelle, chers émoditeurs, que j'avais une de mes ancêtres en 1992, Suzanne Forward, qui avait écrit un très grand livre dont le titre était « Les parents toxiques ». Il ne faut pas avoir peur, chers émoditeurs, de penser que nos parents nous aimaient, mais la relation, la qualité de la relation n'était pas forcément là, n'est-ce pas, Charlotte de Silgui? Faites bien la distinction entre ce qui est du domaine du sentiment et ce qui est du domaine de la relation. Je vous le dis autrement, on peut aimer quelqu'un très fort et vivre avec cette même personne une relation très toxique, qui est avec son père, avec un de ses frères, avec sa mère, avec sa sœur. Mais on l'aime pour autant. Vous voyez ce que je veux dire, Alexandre? Mais ce n'est pas la même chose, le sentiment et la qualité de la relation. Faites bien cette distinction. N'est-ce pas, Charlotte?
Oui, effectivement, moi je suis pas à l'aise avec le mot personne toxique parce que c'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation entre les deux. C'est la personne peut avoir eu des maladresses, peut avoir été blessée elle-même. On sait aujourd'hui que les parents qui battent leur enfant, c'est que ce sont des enfants battus, ils reproduisent quelque chose qui est un schéma qu'ils ont connu. Ils ont pas l'impression d'être toxiques, ils ont l'impression de faire du mieux qu'ils peuvent. En revanche, celui qui reçoit, lui, il reçoit l'impression de la toxicité. Et c'est ça qui compte, parce que ça va devenir ce plomb qu'on va, et on va en parler dans instant, qu'on va et qu'on doit transmuter dans sa version or.
Et vous allez nous en parler, quand vous allez nous parler de votre méthode, quel coaching. Alors, moi, non seulement je suis à l'aise avec ça, mais je suis le spécialiste en France des personnes toxiques. Vous connaissez mon best-seller, Savoir gérer les personnes toxiques chez Dang, et dit Savoir gérer un conjoint toxique dans la collection psychologue de Brigitte Lay. Bien sûr qu'il existe des personnes toxiques. Là où je vous rejoins, c'est que des personnes toxiques sont leçons pour certaines et pas pour d'autres. Parce que ce qui devient toxique, c'est la relation qui est toxique. Et là, par autant, ce qui est important de le savoir, c'est que si on est dans une relation, nous sommes co-auteurs, co-scénaristes et co-responsables, tant qu'on reste dans cette relation. Benoît, par exemple, vous pouvez penser, vous, qu'il y a eu des relations toxiques quand vous étiez champion qui vous ont fait arrêter ou pas, ou vous avez vécu des relations toxiques après. On va demander aussi à Alexandre.
Je ne vais pas dire forcément que c'était la cause ultime, mais je pense qu'effectivement, le fait d'avoir arrêté le sport du jour au lendemain, c'est des choses qu'on effectivement pencher dans la balance. Pencher dans la balance.
Ouais.
Après, il ne faut pas toujours rejeter la faute à l'autre, et il faut savoir se remettre en question et se dire que les choses, comme on disait tout à l'heure, c'est tu viens de citer co-auteur des choses.
Co-auteur.
Donc co-auteur veut dire 50% tout minimum des responsabilités.
Tout à fait.
Donc je pense que c'est pas que les autres, c'est aussi nous. Et après, à chacun de faire son.
Et Alexandre, alors vous le disiez, dans le cercle des gens bien et bienveillants, il y a différents profils socius d'individus. Vous dites-nous qui fait partie de ce cercle alors, qui en fait partie.
Alors nous, on prône la diversité, donc ouais. On est très très heureux d'avoir vraiment des gens très différents les uns des autres. Les seules choses qui nous rassemblent sont nos valeurs, donc la bienveillance, le partage, l'échange et l'entraide. Mais nos membres ont des âges différents, ont des croyances politiques différentes, des croyances religieuses différentes, sont issus de catégories socio-professionnelles différentes. C'est vraiment la grande diversité et c'est ça qui fait la richesse de ce club.
Alors,
et après, pour revenir sur ce que vous disiez concernant la toxicité, domaine que je connais pas bien, comme je le disais tout à l'heure, en revanche, j'ai vraiment la conviction que dans une relation toxique, c'est vraiment du 50-50 et que les deux...
On est co-auteurs.
Voilà, exactement.
On est co-auteurs. Charlotte, page 60, vous parlez des fréquences séminaires qui s'attirent, on est d'accord, hein. Et c'est intéressant, vous citez William James qui dit « La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. » Donc en fait, ce qui compte aussi, c'est pas forcément les événements qu'on vit, c'est la façon dont on va penser ces événements, les traverser et les vivre. Charlotte de Sylvie.
Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant de rebondir là-dessus maintenant, après avoir... travailler sur la perception de la toxicité de la relation. Parce que si, quand je suis petite, je suis attaquée par le géant vert, je vais avoir une certaine relation avec les choses et les gens qui sont de la couleur verte. Mais c'est pas de la faute des gens qui sont de la couleur verte, c'est parce que j'ai associé à la couleur verte quelque chose qui me fait mal. Donc, le but du jeu, c'est de prendre conscience qu'on a cette dissonance, cette ombre-là associée à la couleur verte. Je disais en préambule que la tradition Ho'oponopono et d'autres disent le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et donc le monde extérieur, c'est un miroir, c'est un rétroviseur génial pour nous montrer nos propres ombres, nos propres dissonances, parce que le premier pas, je viens petit à petit à la méthode, mais le premier pas dans cette méthode de transformation de ce qui nous plombe à trésor, c'est de faire la lumière sur l'ombre. Grâce au rétroviseur, grâce à ce qui nous arrive de dissonant dans le monde, qui vient chatouiller ou qui vient en résonance fréquentielle de cette même dissonance à l'intérieur de soi. Si j'ai pris cet exemple-là, évidemment il est métaphorique, mais c'est vrai pour l'abus de pouvoir, le mensonge, la trahison et que sais-je encore, qui sont ce que j'appelle des archétypes qui nous arrivent régulièrement.
Donc, ce qui est intéressant, Charlotte, pardonnez-moi de vous couper, c'est que vous faites immédiatement référence à l'alchimie, hein, aux alchimistes du Moyen-Âge, et évidemment vous savez que dans le parcours alchimique, il y avait plusieurs œuvres. La première œuvre, on l'appelle l'œuvre noire, qui a été aussi le titre d'un roman magnifique de Marguerite Yourcenar, chers amis auditeurs, souvenir de Normal Sup. Et donc, d'une certaine manière, parce que nul n'est parfait, à la base je suis normalien en histoire, mais normalien, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques livres au compteur. Et d'une certaine manière, c'est trouver ça passionnant, parce que bon, l'œuvre noire, c'est justement la première des œuvres, hein, c'est traverser ces parts sombres. Volins nos linges, chers amis auditeurs, on en parlait en off avec Benoît avant le début de l'émission. Je ne crois pas que tout être humain puisse changer s'il ne passe pas par la première marche, qui est la marche de la conscientisation. Et là, on va passer sur France Culture 10 secondes. Socrate disait « L'ignorance a ceci de fâcheux, que les gens sans beauté, sans bonté ni science s'en croient suffisamment pourvus. Comment veux-tu désirer quelque chose dont tu es une persuadée de ne pas manquer ? Il est clair que la première démarche du changement, c'est la démarche de la conscientisation, n'est-ce pas, Charlotte de Sylvie ?
C'est ça, c'est ce que que j'appelle faire la lumière sur l'ombre, c'est prendre conscience des ombres qu'on a à l'intérieur de soi, mais qu'elles viennent de notre enfance, qu'elles viennent de dissonances de mémoire transgénérationnelle, comme c'était suggéré ici.
C'est ça, c'était très intéressant.
C'est la première étape, l'œuvre noire. On en prend connaissance, on la traverse. Hein. Les alchimistes disent vitriol, visite l'intérieur de la terre. C'est la première chose, donc c'est la métaphore
oui,
de sa terre.
Oui, interiora, terra, visite
voilà,
l'intérieur de la
terre. Voilà, et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. Donc cette fameuse pierre philosophale qui permet de comprendre ce que ce plomb est venu nous dire, parce qu'il nous mène vers notre or.
Et c'est pour ça que Jung était génial, parce que Jung, évidemment, quand il dit on ne peut avoir plus de lumière que si on traverse son ombre, c'est aussi une vision comme ça, c'est clair.
Mais Jung est un alchimiste.
Mais, hein. Et Jung est un alchimiste, c'était un immense alchimiste. C'est-à-dire que si vous ne traversez pas et vous n'essayez pas de comprendre vos parts d'ombre, vous n'aurez pas plus de lumière. Il faut vraiment que tous les auditeurs l'entendent et le comprennent. Je vous propose une page musicale, restez avec nous parce que c'est passionnant, on est qu'au tout début, on va égrener certains chapitres tout en vous donnant envie de découvrir, de l'avoir entre les mains et surtout devant les yeux. Ce magnifique livre, Transformer ce qui vous plombe en trésor. Je sais que mes deux autres invités ont très envie de le lire aussi. Voilà, je suppose que Charlotte leur offrira dédicacé. Elle en a amené 15 exemplaires. Restez avec nous et surtout, restez avec nous jusqu'au bout parce que vous allez avoir des secrets qui vont vous être dévoilés.
I'll say it clear. I'll state my case. Of which I'm certain. I've lived. A life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself,
and did it my way.
The Voice, le grand Sinatra qui nous dit qu'il faut le faire à sa façon, my way. C'est vrai qu'il faut le faire à sa façon, c'est vrai que c'est jamais simple, mais never give up. On a un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Ah, nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Pour Vivre, Revivons Coaché. Vous savez que notre invité central, c'est Charles de Silguy. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez? Évidemment, vous connaissez son tout nouveau livre passionnant, hein, Transformer ce qui vous plombe en trésor. Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question à Charles de Silguy, Jean?
C'est une mine, ce livre. Oui, bon, il y a évidemment énormément de choses intéressante. Vous m'entendez bien?
Vous entend merveilleusement bien.
mais il y a quand même il y a plusieurs choses. Ça serait très très long de poser des questions à Madame de Silguy. Mais il y a quand même une chose que j'arrive pas bien à comprendre dans sa doctrine, on va appeler ça comme ça, c'est qu'en fait elle a l'air de dire que tout ce qui nous arrive est de notre faute. Enfin, est inscrit dans notre destin et au fond, on est responsable de tout ce qui nous arrive.
Et moi, ça vous questionne.
Je pense qu'on ne contrôle que 10% de sa vie, les 90% restants, malheureusement, ils sont dictés par beaucoup de choses, le destin, la chance, tout ce que vous voulez. Et si je me promène sur un trottoir et que je prends un piano à queue sur la tête, est-ce que je suis responsable?
Charles de Silguy, Jean pose une question que se posent beaucoup de gens d'ailleurs.
Hein. Merci Jean pour cette question parce qu'on se la pose tous. Et en fait, c'est pas de notre faute. Moi j'aime bien dire c'est de notre fait. C'est beaucoup plus facile de transformer notre vie en quelque chose de bon si on rejette pas la faute sur les autres ou sur la fatalité, mais qu'on en prend la responsabilité parce qu'au moins là on a un levier. On évoquait tout à l'heure le fait qu'on s'est imprégné de fréquences dissonantes dans notre enfance ou dans nos mémoires transgénérationnelles. Pour reprendre cet exemple, si en moi j'ai une mémoire souffrante d'un poids lourd qui me tombe sur la figure, et en l'occurrence personnellement j'en ai une, on va avoir... En fait, les fréquences, vous disiez tout à l'heure que les fréquences qu'on a en soi, elles rayonnent, elles sont émises et elles attirent à soi leur équivalent. On pourrait dire que c'est comme ça qu'on fonctionne la radio. Hein, on est branché sur une même fréquence. Donc si j'ai en moi la fréquence piano poids lourd qui me tombe sur la figure, si je n'en fais rien de ce plomb-là, je vais avoir des pianos qui vont me tomber sur la figure jusqu'à temps que je comprenne que j'ai ce plomb-là et que je dois en faire quelque chose. On peut dire c'est la faute à pas de chance, ça apparaît comme ça. On peut dire c'est un vilain karma et c'est possible. On peut dire aussi j'ai en moi des fréquences informationnelles qui vibrent, parce que nous sommes fréquences, c'est ce que montre la physique quantique. On n'est rien d'autre que des ondes. La matière est une illusion, comme le disent les physiciens quantiques. Donc on est une somme de fréquences qui se densifient dans la matière. Et ces fréquences, elles donnent une information, bleu, rouge, vert, cette fameuse diversité. Et nos ombres.
Alexandre Favre, ce que nous a dit Jean, je crois que vous êtes assez en phase, vous vous questionnez sur ces sujets-là, n'est-ce pas, vous aussi? Vous demandez si tout le monde est responsable de ce qui lui arrive.
Oui, c'est une réelle interrogation, effectivement.
Et c'est donc ça a fait écho à la question de Jean.
Exactement, j'aurais pu poser la même question. J'aurais probablement pas trouvé l'idée du piano, mais
moi j'ai une réponse à Jean, si Jean nous entend toujours, mais en tout cas sinon il écoutera l'émission, parce qu'elle repasse samedi à 12h. Benoît,
oui.
L'idée de ça, est-ce que...
Moi je suis très croyant que les choses sont prédestinées en fait, pour rester, on va dire, normées dans le discours, mais je pense que les choses sont plus ou moins écrites, après évidemment, pas le 100%, parce qu'on a quand même...
Notre libre arbitre.
Un petit libre arbitre tout de même. Mais je pense que les grandes lignes sont, voilà,
Alors pour répondre à Jean, puisque évidemment la vraie question toujours c'est de se dire hasard ou nécessité, c'était le titre d'un très grand livre. L'histoire de Jean du piano, elle est plus clairement détaillée par Aristote, très grand philosophe grec. Lui, Aristote parlait d'une pierre qui tombe sur le pied. Vous voyez, Jean, c'est pas un piano, mais c'est la même métaphore. Et il disait du hasard, Aristote, cette phrase magnifique, et je vous propose à Jean comme aux milliers d'auditeurs de la méditer, le hasard est la rencontre de deux nécessités. Et le hasard d'un moment, par exemple, ce moment-là, donc la nécessité de Jean ou de la personne qui se balade dans la rue, c'est de se balader dans la rue, sa nécessité. Et la nécessité de la pierre, à ce moment-là, c'est de lui tomber sur le pied. Donc le hasard est bien la rencontre de deux nécessités. Donc autrement dit, comme disait fort justement Einstein, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est le pseudonyme que prend Dieu quand il veut passer inaperçu. Et c'est toujours ça. Je ne crois pas au hasard, moi. Charlotte de Silguy.
Oui, effectivement, c'est... Moi, j'ai envie de dire, alors on peut le voir comme quelque chose de prédestiné. Si mon âme a décidé d'œuvrer à la liberté, il y a un jeu de dualité et d'opposition. Hein. Si mon âme a décidé d'œuvrer à la liberté dans cette vie, elle va choisir ses parents en ce sens. Et pour œuvrer à la liberté, il y a nécessité de la vouloir, cette liberté. Si on ne veut pas désespérément quelque chose, on n'a pas de goût à ça. Et en fait, pour pouvoir œuvrer à la liberté, pour le vouloir, il faut quoi? Il faut ne pas l'avoir. Il faut passer d'abord par son opposé. Autrement dit, mon âme va choisir, dès le début de sa vie, de traverser quelque chose qui est de l'ordre de la non-liberté. Si je transforme ça en une quête, parce que cette dissonance-là qui crée de la souffrance, elle crée un élan. Vous savez, les émotions, c'est du latin motum qui a donné émotion, mais qui a donné aussi moteur, motivation, mouvement. Donc les émotions, c'est leur rôle. Les dissonances, c'est leur rôle de nous donner un élan vers quelque chose qui ressemble à l'opposé de ce qui a créé la dissonance. Et donc, si j'ai pas encore transformé, comme le général de Gaulle, en œuvrant à la liberté, par exemple, ou comme avocat, ou que sais-je, eh bien, je vais rayonner l'enfermement ou la non-liberté qui va me revenir dans la figure de façon répétitive et régulière jusqu'à ce que je prenne conscience que j'ai ça et que je dois en faire quelque chose.
Alexandre, il y a quelque chose que vous voulez dire là-dessus?
Oui, j'ai une question à Charlotte. Je voudrais savoir si finalement, à partir du moment où on a fait ce cheminement pour arriver à la conviction que tout ce qui nous arrive dans la vie doit nous arriver, est-ce que ça permet de vivre plus apaisé et que finalement on prend toutes les étapes les plus difficiles de la vie avec moins de difficultés?
Charles de Silguy.
C'est ma perception, mais je pense que c'est à chacun de faire son cheminement par rapport à ça. Moi, je crois que quand on comprend, et c'est ce que j'ai traversé depuis 30 ans, j'ai cherché à comprendre le sens de mes épreuves, quand on les comprend, et quand on comprend la dynamique qu'elles ont créée, qui est bénéfique dans notre vie, vers notre harmonie et notre accomplissement personnel, vers le sens, vers quelque chose qui a fondamentalement du sens pour soi, à ce moment-là, la souffrance... Ou le catalyseur de la souffrance, hein, l'emmerdement en gros, eh bien on a moins de rancœur quand on comprend que c'était là pour notre bien. Si on fait un croc en jambe et que je tombe par terre, je vais bien sûr en vouloir au pourvoyeur du croche-patte, mais si je me rends compte que je tombe dans un trésor qui me rend heureux, ben je vais moins le maudire.
Charlotte, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est ça me fait penser à cette phrase de Goethe qui dit « Tant qu'on n'a pas compris son passé, nous sommes condamnés à le répéter ». C'est évident. Le mot clé que là, nous sommes en train de développer avec les questions de Benoît, d'Alexandre et vous, vos éclairages passionnants, Charlotte de Silguy, c'est l'idée de comprendre. Je pense que comprendre vient du latin comprendere, qui veut dire prendre avec soi. Or, il y a des choses qui nous arrivent parfois dans notre vie, quand on est très jeune, à d'autres âges, c'est tellement imbuvable ou difficile à accepter parce que c'est des traumas très forts qu'on n'a pas pu les comprendre. Ou alors parce qu'on n'était pas armaturé pour, Alexandre. Vous voyez ce que je veux dire? Armaturé parce qu'on était trop enfant, le cerveau n'était pas assez développé, d'accord? Faut voir que vous me faites quand même un peu rire sur l'idée des personnes toxiques, parce que quand t'es enfant, l'espèce animale est certainement la plus dépendante de toutes les espèces animales des gens qui sont des adultes autour de vous. Je veux dire, des mois et des mois et des mois, vous avez des gens qui ont droit de vie ou de mort sur vous. Si vous tombez sur des gens normaux, bien, clairs, équilibrés, tant mieux! Mais si vous tombez sur des gens à minima, pas très bien dans leur tête, d'accord? Ou à maxima, complètement déséquilibré, mes chers amis auditeurs, regardez la télé, écoutez la radio, le nombre de parents, de patricides, de matricides, de gens qui tuent leurs enfants, non! Là, je suis pas d'accord! Et évidemment qu'il y a des milliards de gens toxiques, Alors évidemment, il y a cette fameuse phrase de Socrate, nul n'est méchant volontairement, mais ça justifie alors Francis Holm, ça justifie l'enfant. Pensez toujours, et si c'était mon enfant qui avait été tué à la sortie du collège la semaine dernière, là où je suis révolté, j'en veux pas à des gens comme nous qui amènent de la lumière, Charlotin. J'en veux à nos certains politiques qui encore, il y a 14, 15 ans, quand on leur disait que le harcèlement scolaire ou le harcèlement sur les réseaux sociaux, ça passait par la communication interpersonnelle, ils vous riaient au nez, d'accord? Moi, j'ai fondé la méthode haute qualité rationnelle en 2007. J'ai écrit la HQR à l'école pour un établissement sans violence en 2008. J'ai vu des ministres de l'éducation nationale qui ne comprennent toujours pas, jusqu'à il y a 6 mois, que le harcèlement moral à l'école de vos enfants, ça passe par de la communication qui s'appelle des messages toxiques. Et maintenant, on vient tous pleurer depuis 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ça passe aux 20h. Alors depuis 6 mois, ils ont tous été harcelés. Alors maintenant, ils ont tous été harcelés, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a encore des mômes qui sont morts la semaine dernière devant un collège, chers amis. Donc, je le dis, chers amis auditeurs, on est au Moyen-Âge relationnel. On est à l'ère de l'IA, et dans le même temps, l'humanité n'a rien compris encore au fait que ça devrait être un savoir fondamental aussi important que lire, écrire et compter. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Edrissu? C'est essentiel ce qu'on est en train de dire là.
C'est effectivement essentiel, mais je pense qu'effectivement, on est de manière générale en... un peu en déclin. L'évolution de la société a été trop vite sur plein de choses et on en a oublié certaines valeurs et on a oublié certains basiques en fait.
C'est pour ça qu'il faut des gens bien et bienveillants et le mettre dans les programmes scolaires, voyez, mettre ça, apprendre la communication non toxique à l'école de la première année de maternelle, la dernière, et mettre des 20 sur 20. Et peut-être qu'évidemment ça changerait pas le monde parce que le monde va tellement mal, mais au moins ce serait une discipline scolaire. Parce que le problème, c'est que c'est même pas dans les programmes scolaires, voyez ce que je veux dire, ce n'est même pas dedans. C'est grave. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez fondé un network aussi intéressant qui met les gens en bienveillance? Alexandre Favre.
Effectivement, j'ai la conviction que cette valeur, quand elle est incarnée, elle est absolument nécessaire et indispensable aujourd'hui. Après, comment la promulguer? Nous, on essaye de le faire à notre humble niveau.
Mais c'est déjà
comment
bien.
Comment l'enseigner, ça c'est encore un autre sujet et je suis pas compétent.
Moi, j'ai monté un centre de formation là-dessus depuis 20 ans. Charlotte a créé une méthode. Alors, Charlotte, vous êtes coach, faut le dire, Charlotte de Sylvie, vous êtes coach avec une méthode dont on va parler au cours de l'émission. Et ça aussi, vous l'amenez aux gens dans vos coachings. Vous les aidez à gérer ça, Charlotte de Sylvie.
Oui, justement, ce qu'on peut regarder, je rebondis par rapport à ce qui vient d'être dit. Personnellement, et depuis que j'ai fait ces explorations-là, j'observe tout ce qui se passe, qui m'irrite, qui m'agace, qui m'afflige, comme un symptôme de quelque chose. Hein, je le redis, d'une dissonance qu'à l'intérieur de moi. Plus c'est féroce émotionnellement pour moi, plus ça me génère de la colère et de la frustration, plus ça vient aiguillonner cette blessure. Et on peut prendre les faits sociétaux. On peut prendre les dictateurs, on peut prendre les guerres, on peut prendre les manipulations politiques, on peut prendre les harcèlements à l'école et voir la métaphore de ce que c'est par rapport à un vécu d'enfant. Et c'est comme ça que j'accompagne les personnes. La première approche, c'est qu'est-ce qui t'importune le plus aujourd'hui et que tu voudrais transformer dans ta vie. Donc ça peut être des choses qui t'arrivent dans ton couple, dans ta vie professionnelle, dans ta vie entre toi et toi, parce qu'on a des autoblocages, des autosabotages. Mais ça peut être aussi, et ça m'arrive, des gens qui arrivent en séance et qui sont furibards par ce qui se passe politiquement, par exemple, dans notre pays ou dans le monde. Parce que c'est un indice qui vient aiguillonner ça. Et pour beaucoup de ces faits sociétaux qui nous importunent, qu'on veuille les voir ou pas, à minima ça nous importune, ça nous fout le cafard, voire ça nous fait carrément péter les plombs, eh bien, pour beaucoup, ça dit que notre féminin, notre dimension féminine de l'être, hein, je ne veux pas les femmes et les hommes, hein, c'est la dimension féminine de l'être.
C'est-à-dire Jung aurait dit notre anima.
Voilà, tout ce qui se voit pas, en gros, c'est toute notre intériorité, le cœur, les intuitions, les relations à l'invisible, à la mort, les relations avec le corps, eh bien, elles n'ont pas autant leur place que les dimensions masculines. L'argent, le dogme, le carré, la note, le dictateur, le pouvoir. Et donc, ça parle quelque part de ce qu'on s'inflige à soi-même après en avoir été victime. Si j'ai été victime d'un abus de pouvoir d'un de mes parents, ou d'un oncle, ou que sais-je, je vais être imprégné de l'énergie, de la fréquence abus de pouvoir, et je vais avoir tendance à me l'infliger à moi-même, ce qui va créer une dissonance. Ça veut dire que ma tête, mon rationnel, mon cartésien, ma relation au concret va être en prédominance par rapport à ma relation à mon féminin, c'est-à-dire mon intériorité, mon cœur, mes sensations, mes intuitions, mes émotions. Et donc, on nous renvoie, il nous semble renvoyer des signes, comme quoi il y a un abus des dimensions masculines, hein, dictatoriales, ou qu'il y a un conflit entre les dimensions féminines et les dimensions masculines.
En tout cas, pour c'est mieux, très intéressant.
Pour mieux qu'on aille voir qu'on a cette dissonance en soi et pour qu'on la répare. Parce que dans le Tao, il ne peut y avoir d'harmonie en soi, ni dans le monde, si on n'équilibre pas ces polarités en nous. Et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et pour bonne partie dans nos vies, c'est un indice qui nous propose, qui nous invite, pour pas dire qui nous convoque carrément, à aller oser assumer, démythifier davantage ces dimensions féminines de l'être, pour qu'on soit, il s'agit pas de taper sur le masculin qui est excellent et qui est très utile. La toxicité perçue par certaines femmes du masculin, elle vient pas du fait que le masculin est toxique, il vient du fait que elle porte en elle, comme chacun, beaucoup d'entre nous, un rapport yin-yang, féminin-masculin, où le masculin est en suprématie. Et donc, comme c'est très bien dit dans le Tao, ce qui est yin est fait pour devenir yang et vice-versa. On doit équilibrer nos polarités.
On va passer une page musicale. Restez avec nous, c'est passionnant. Et on va avancer dans le travail de l'œuvre de Charlotte de Silgy.
J'ai traversé des nuits et des jours sans sommeil pour en arriver là. J'ai eu chaud sous la pluie et froid en plein soleil pour en arriver là. J'ai parlé à la peur et fait taire le silence. J'ai maquillé les heures, j'ai vendu des dimanches pour en arriver là. Pour en arriver là. J'ai pleuré tant de fois que je n'ai plus de larmes pour en arriver là. Je suis tombé sans foi, mais sans tomber les armes, pour en arriver là. J'ai marché sur ma vie plus souvent qu'à mon tour. J'ai mis le mot fini presque à tous mes amours, pour en arriver là. Pour en arriver là. Pour en arriver là, j'ai trop douté de tout. De moi, de Dieu, de vous, j'ai laissé derrière moi tous mes rêves d'enfance. Aujourd'hui j'ai le cœur presque en état d'urgence. Pour en arriver là, je crois bien qu'avec vous, si j'avais rendez-vous sans l'ombre d'un regret, pour en arriver là, je recommencerai. J'ai appris à hurler juste en dedans de moi, pour en arriver là. Pour ne pas vous montrer qu'on me montre du doigt, pour en arriver là. J'ai fait le tour du monde, mais je n'ai rien pu voir. L'absence si profonde qu'elle salit mes miroirs, pour en arriver là. Pour en arriver là, pour en arriver là, j'ai trop douté de tout, de moi, de Dieu, de vous. J'ai laissé derrière moi tous mes rêves d'enfance. Aujourd'hui j'ai le cœur presque en état d'urgence. Pour en arriver là, je crois bien qu'avec vous, si j'avais rendez-vous sans l'ombre d'un regret. Pour aller nulle part, j'ai mis dans ma mémoire que des débuts d'histoire. Pour en arriver là, j'ai trois mille.
La grande Dalida pour en arriver là, que de sacrifices, et oui. Et on est parti pour un moment de mélothérapie.
La minute mélothérapie de Christophe Médici.
Alors, chers amis invités, vous m'avez fait la gentillesse de venir à cette émission. On va faire un petit jeu qui est lié à mon 20e livre, qui s'appelle « Découvrir votre mission de vie grâce à la mélothérapie ». Vous savez que bah, tout le monde peu ou prou aime la chanson, française ou internationale. Je vais vous demander à chacun de me dire un titre d'une chanson que vous aimez. Honneur aux dames, un chanteur ou une chanteuse que vous aimez. Charlotte, quelle chanson vous aimez de qui ?
Alors, j'ai une tendresse particulière pour The Sound of Silence de Simon & Garfunkel.
D'accord, The Sound of Silence, d'accord. Ok, je reviens avec vous dans 10 secondes. Alexandre.
Alors moi, il y a une chanson qui me parle beaucoup. C'est une chanson qui s'appelle Elle m'appartient de Francis Cabrel. Une des chansons les moins connues de Francis Cabrel et qui, pour moi, est sa plus belle.
Benoît.
Corneille, parce qu'on vient de loin.
On vient de loin, où c'est ? De
Corneille, on vient de loin.
On vient de loin. Alors maintenant, je vais vous demander, on va commencer par Charlotte. À quel thème positif la chanson de Simon & Garfunkel, Sound of Silence, vous fait-elle penser ? Et je dis bien un thème positif, en un mot.
La beauté du silence.
La beauté du silence, c'est magnifique. La beauté du silence. À vous aussi, Elle m'appartient de Cabrel, Alexandre Favre. À quel thème positif cette chanson décrite vous fait-elle penser ?
Alors c'est marrant que vous vous posiez la question dans ce sens-là parce que c'est d'abord une chanson qui m'a marqué suite à une souffrance, mais qui finalement marque une renaissance.
Donc la renaissance. Et vous alors Benoît, cette magnifique chanson de Corneille
vient
de...
Le combat, le battant.
Alors voilà, la première clé des 18 clés de la mélothérapie, c'est 1, et c'est valable pour vous trois, on va commencer par Charlotte, puis Alexandre, puis Benoît, ce que j'amène au monde et à l'humanité. Voilà, et je peux vous dire que ça fait 120 000 fois que je le fais depuis 2009. Charlotte, ce que vous amenez aux humains, c'est de leur faire prendre conscience de la beauté du silence. Ça tombe juste, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire que si on voit le silence
de la méditation,
comme étant le côté yin,
ouais,
d'introspection, d'aller chercher dans nos ombres, ce qui ne se dit pas, ce qui ne se voit pas, qui est pourtant assourdissant parfois... oui, allez voir dans ce qui
n'est
pas
dit. C'est ce que vous amenez à l'humanité. Alexandre, ce que vous amenez à l'humanité, ou peut-être pour ça avez-vous créé le CGBB, c'est de la renaissance. Vous aidez les gens à renaître. Alexandre Favre.
Bien, je n'avais pas fait le rapprochement jusqu'à aujourd'hui.
Mais vous n'êtes pas venu pour rien, vous voyez. Voilà, vous aimez les gens, vous aidez l'humanité à être des battants.
Certainement.
Vous aidez l'humanité à être des battants. Voilà.
Certainement de pas, effectivement, même la carrière.
Eh bien, sachez aussi que je vais donner beaucoup de conférences et dans les mois qui viennent sur mon livre « Découvrir sa mission de vie grâce à la mélothérapie ». Il y a 18 clés et à la fin, ça rend une phrase, votre mission de vie, ce pourquoi votre âme s'est réincarnée sur la Terre. Je peux vous dire que d'ailleurs, j'en ai déjà donné au CGBB. J'en donnerai aussi au Salon de Besançon. J'en donnerai au Salon Zen. J'en donnerai un peu partout, au Grand Rex. Et voilà, il y a mon livre aux éditions Lanor. On va continuer maintenant avec notre sujet d'aujourd'hui, mais on est complètement dans le sujet, puisque transformer ce qui vous plombe en trésor, il y a un mot-clé, Charlotte de Silgy, dans votre livre, et assez rapidement dans les premiers chapitres, et ça va parler à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est le mot métamorphose. On est bien d'accord ? Il y a une idée de métamorphose derrière, c'est cette idée. Est-ce que vous pouvez expliciter ce que vous mettez derrière cette idée de métamorphose, Charlotte de Silgy ?
Je vais reprendre une métaphore qui pour moi est une polarité positive liée à une épreuve. La métaphore, c'est l'analogie, la manière de comparer les choses. Du coup, j'ai perdu
votre question. L'idée de la métamorphose.
La métamorphose, pardon. Oui, la métaphore, donc, c'est la chrysalide.
Vous la développez dans le livre.
La chrysalide, c'est vraiment un hyper bon exemple parce que c'est les lépidoptères, les papillons, c'est l'animal qui passe le plus de stades de métamorphose et de transformation. Donc c'est vraiment le symbole de la métamorphose. Et ça dit quoi ? Ça dit qu'on passe d'un stade à un autre. C'est d'ailleurs l'épreuve au sens initiatique. On grandit, on se transforme en quelque chose qui correspond à l'étape d'après. Donc la métamorphose, c'est changer de stade, grandir en conscience, évoluer, prendre une bifurcation, s'envoler, prendre son envol. Voilà, j'ai pas meilleur de métaphore que ce que représente une métaphore.
C'est la chrysalide au papillon.
Et ce qui est important aussi, c'est que, et ça plusieurs sagesses le disent, c'est que tout est changement. Il n'y a qu'un truc qui soit permanent.
C'est la loi de l'impermanence.
C'est l'impermanence.
C'est la loi de l'impermanence.
Comme le disent les Tibétains. Et donc, à partir du moment où on regarde le cycle de la nature et on le voit, hein, tout se crée, tout se transforme, rien comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. La vie, c'est un cycle permanent et c'est que du changement. Et c'est quand on résiste à la transformation voulue par notre âme, bien souvent, qu'il nous arrive des bricoles, parce que cette résistance, elle crée en fait une souffrance et une quelque chose qui font que c'est pas fluide en fait.
Alexandre, est-ce que vous pensez qu'en 2018, quand vous créez le CGBB, alors que vous étiez DG d'une boîte de PMI, hein, vous êtes en métamorphose? Un ange passe.
Non, c'est parce que je voudrais apporter une réponse réfléchie et le cheminement a été de plusieurs années, puisque comme je vous ai dit, je suis marqué le 13 novembre 2015 par cette soirée. Le lundi, donc deux jours après, je suis dans les bureaux du fonds d'investissement pour lequel je travaillais, pour leur demander d'arrêter. Pour différentes raisons, je peux pas arrêter tout de suite. Et ce cheminement prend donc trois années avant que j'ai la possibilité et que j'ai en même temps ce courage, parce que quitter un job à responsabilité où j'avais beaucoup d'avantages, des revenus importants en tant que responsable de famille, c'est une décision qu'on embarque tout le monde avec soi dans une décision comme celle-là. Et donc évidemment c'est quelque chose réfléchir. On ne sait pas à quel moment ça bascule, mais il y a un matin, on se lève et on sait qu'il faut. De toute façon, on n'a plus le choix. On ne peut plus continuer dans cette voie-là. Il faut changer.
Benoît, vous êtes champion. Vous êtes champion de France. Je parle à ce moment-là. Vous pouvez très bien imaginer guérir de votre grave blessure à ce moment-là et faire les JO, les championnats d'Europe et tout. Vous avez un avenir devant vous. Vous êtes appelé à rentrer à l'INSEP, équipe de France. Et à un moment donné, vous devez vous renouveler, comme la chrysalide, vous devez changer, on est d'accord, Benoît Idrissu, et là, à ce moment-là, vous passez par, vous l'avez dit tout à l'heure en off, vous m'avez dit, on va travailler dans le business maintenant.
Exactement. En fait, l'athlétisme est un sport un peu ingrat, faut beaucoup travailler pour peu récolter. Le moindre petit virage, on le paye fort. Et c'est pas un sport où il y a beaucoup d'argent. Donc pour en vivre, à part être champion olympique ou faire partie vraiment du top, c'est très compliqué. Et voilà, venant d'un milieu plutôt modeste, je me suis tourné plutôt vers. Il fallait travailler, il fallait faire tourner la marmite un petit peu. Et j'ai eu une première opportunité, dans différents. J'ai travaillé en téléphonie mobile, j'ai ouvert une première boîte et aujourd'hui je travaille dans les assurances. Et effectivement, la passerelle simple, si je peux l'appeler comme ça, c'était de me tourner vers le commerce, voilà, tout simplement.
Mais ce qui est intéressant, je trouve, on va demander son avis à Charlotte de Silguy, c'est que je pense que les talents qu'il avait, les aptitudes qu'il avait, et l'un et l'autre d'ailleurs, dans un domaine, en pédagogie on appelle ça faire des ponts, hein, c'est rester. Quand on a l'âme d'un entrepreneur, on entreprend autre chose. Il a entrepris un network qui cartonne. Il était champion, il est arrivé à champion de France. C'est pas anodin quand on arrive au top de quelque chose. Et ben maintenant, il cartonne, il est entrepreneur et il a son entreprise. Je pense qu'il y a la possibilité, vous voyez, que les talents soient mis au service d'autres choses. Qu'en pensez-vous, Charlotte de Silguy?
On est complètement dans le thème, parce que si j'avais à résumer cette approche et pourquoi on a des embêtements, des épreuves, en gros, c'est parce qu'on a en soi des potentialités, des valeurs ajoutées au monde, qu'on peut appeler des talents ou des quêtes, qui sont insuffisamment exploitées. Si on n'est pas dans notre axe, si on n'est pas dans le chemin voulu dans notre âme, au moment où on parle, hein, parce qu'il y a des étapes qui sont utiles dans la vie, eh bien, on va avoir, vous savez, les petites alarmes qu'on a dans les voitures qui nous préviennent gentiment au début, puis après c'est carrément un casse-tête. Mais les épreuves, c'est pareil, c'est-à-dire que les épreuves, elles nous préviennent qu'on a des ajustements à faire dans nos vies pour aller identifier les talents, les aptitudes et les quêtes fortes qu'on a en nous et qui nous viennent de nos blessures. Et donc, si on n'est pas dans notre axe, on va avoir des écueils dans notre vie qui sont directement en résonance avec la blessure pour mieux qu'on voit quelle typologie de quête et d'aptitudes on porte en soi qui sont faites pour être exploitées dans notre vie pour qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes. Hein, notre lumière qui vient de nos ombres, elle nous dit qu'on a ces ressources clés et on cherche souvent le sens de la vie, sa mission de vie, sa mission d'âme, etc. Il y a plein de manières de la trouver. Mon propos, c'est de dire une partie des ingrédients clés qui façonnent notre valeur ajoutée au monde et donc notre mission de vie, là où on va s'accomplir, là où on va être doué, là où on va être dans l'excellence, là où on va gagner de l'argent, ça se situe dans le décryptage de nos ombres pour identifier ces ressources clés qu'on porte en nous et qui sont censées être déployées pleinement pour qu'on soit dans notre alignement personnel.
C'est intéressant parce qu'en fait, quelque part, je suis en face complètement avec ce que vous dites, Charles de Sigui. Tout le monde a une zone de génie. D'ailleurs, il serait très bien que les systèmes scolaires, surtout européens, comprennent qu'il y avait un homme en 1984 qui s'appelait Edward Bowen à Harvard, qui a créé un livre qui s'appelait Les intelligences multiples, et faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas qu'un type d'intelligence, il y en a 8 d'après Bowen, et que voilà, en France, pendant très longtemps, t'es bon en maths, tu passes, t'es nul en maths, t'es une merde, quoi. Je veux dire, c'était presque ça. Non, il y a l'intelligence musicale, il y a l'intelligence de la main pratique, il y a l'intelligence du cœur, comme avait dit paix à son âme notre ami Guy Corneau, qui est parti trop tôt, mon ami Guy. Donc voilà, il y a tellement d'intelligence, mais voilà, moi je suis éberlué parce que, je sais pas ce que vous en pensez, chers amis. Benoît, vous m'avez dit que vous aussi vous avez eu du mal avec le système scolaire classique.
Je pense que c'est l'histoire de moule.
Ouais,
moule,
voilà, de moule sociétale. Peut-être que vous, peut-être Alexandre, vous avez fait des études supérieures à
ça. Pas du tout.
Ça avait été difficile
pas du tout.
Pour vous.
J'étais papa à l'âge de 16 ans, j'ai arrêté l'école en première.
À vous aussi, ça n'a pas été pour vous alors la scolarité. Vous avez été papa très jeune.
Voilà.
Et vous êtes parti tout de suite le pied à l'étrier dans le business.
Exactement. Enfin, dans le business. J'ai commencé en déchargeant des camions chez Decathlon.
Et puis après, vous êtes monté. Ouais. Mais il y a des gens qui chargent les camions, puis après deviennent patrons de la
Exactement.
Boîte où ils chargeaient les camions.
Il n'y a pas de saut métier.
Et puis il y a surtout la possibilité d'évolution. C'est ce que nous a appris Charlotte de Sigui. Une page musicale, reste avec nous. C'est passionnant. On va continuer à voir un petit peu l'œuvre de l'alchimie intérieure.
Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut, car de mon bras me tient ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin, je peux aller encore plus loin. Laisse mon bras me tient ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, oh, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai.
la grande Ginette Renaud, qui nous dit encore un plus haut, encore plus haut. On a un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Allô, allô.
Oui, oui, oui.
Ah,
allô.
Nous sommes heureux de vous accueillir, Frédéric. Vous savez que notre invitée, c'est Charlotte de Silgui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question, Frédéric?
Alors moi, la question que j'ai envie de lui poser, parce que vraiment j'adore cette approche, elle me parle vraiment beaucoup. J'aime l'idée de pouvoir transformer nos blessures, de pouvoir se les approprier autrement, de changer notre vie. Vraiment, je partage à 100%. Par contre, qu'en est-il du karma? Voilà, ce maître d'apparence intransigeante, quel rôle il a à jouer là-dedans?
Charlotte de Silgui, le fameux karma.
Eh oui.
Merci Frédéric pour votre question. Je prétendrai pas avoir la réponse à ces questions qui sont très multiples, possiblement. Et on connaît tellement peu de choses sur le fonctionnement de l'univers, sur le fonctionnement de la civilisation. Je trouve l'idée des vies successives qui permettent d'apprendre et d'évoluer très intéressante, mais je ne sais pas si ça correspond à une vérité. Ça me séduit et ça me donne même de l'espoir, bien quelquefois on a envie que la chaîne de réincarnation se termine voilà, pour vivre autre chose que des tourments sur cette terre. J'ai envie de l'intégrer à l'énergie globale qui nous anime. Si, parce que je disais tout à l'heure, on est pétri d'un certain nombre d'informations. Donc il y a ce qu'on vit dans la naissance, il y a notre patrimoine transgénérationnel, physique et psychique, émotionnel. Et puis, peut-être que, comme le dit le Tao, il y a une lumière qui, pour faire l'expérience d'elle-même dans la matière, se subdivise en d'innombrables petites parcelles de lumière qu'on peut appeler des âmes. Dans la temporalité ou pas, hein, parce que le monde linéaire, ça semble n'être qu'une illusion pour notre monde de terriens, mais d'autres obédiences disent autre chose hein, sur l'espace-temps. Mais l'idée que si j'ai été, par exemple, un monstre de guerre...
Hitler.
Oui, ou d'autres, hein, il y a eu tellement de guerres, de toute façon, donc il n'y en a pas qu'un. Mais même dans un champ de bataille des années 1712, que sais-je, hein, j'ai en moi cette énergie du féroce et du sanglant et de la guerre, je la porte en moi. Une autre manière de dire, c'est que, et c'est très bien dit dans la physique quantique, et c'est dit dans beaucoup de sagesse aussi, c'est qu'on est tous interconnectés. Si le Big Bang est une théorie qui continue à perdurer, on ne sait pas, mais au départ, on est tous connectés. Et tout ce qui est connecté, à un moment donné, le restera à jamais, comme une mère et son enfant qui ont des liens très particuliers, intuitifs et télépathiques, possiblement. Et donc, moi, petite Charlotte, qui me suis incarnée sur Terre, je suis de toute façon porteuse de toutes les énergies qui circulent dans l'univers. Donc, Judas, Adam, Ève...
Est en vous.
Léonard de Vinci, Poutine, Vercingétorix, tout ça, en fait, ça me compose parce que c'est dans mon patrimoine historique, génétique et pourquoi pas karmique.
Comment ça vous parle tout ça, Frédéric?
J'entends. Je me demandais juste si ce karma qu'on devait épurer, qu'on devait vivre sur Terre, pouvait être un empêchement à la résolution de nos blessures et à la guérison de nos blessures.
Moi, j'ai une lecture aussi qui
peut être... C'est un peu sous cet angle-là que je posais la question.
J'ai envie de vous faire un retour là-dessus aussi, Frédéric. Je pense que l'être humain, s'il décide de revenir, il a le choix. Il y a beaucoup de films, beaucoup de livres de philosophes là-dessus, et elle a raison de faire allusion aussi à des livres de physique quantique. Je pense notamment à ce livre magnifique qui s'appelle « Se souvenir du futur hein, » de deux grands chercheurs. C'est-à-dire qu'on est venu faire un travail, on est venu créer ici. On aurait pu rester là-haut, mais le problème de là-haut, c'est qu'on travaille autrement, on travaille pas dans la création. Il y a qu'ici-bas qu'on revient pour que notre âme progresse. Mais Volens Nolens... Je pense que c'est ça, vous avez raison. On a toutes les polarités, tous les choix, mais tout le monde a le choix. Tout le monde a le choix. Et il y a des gens qui choisissent finalement de aller vers du mieux, de se bonifier, d'aller vers de la lumière, puis d'autres, Volens Nolens, qu'on le veuille ou non, bah, ils choisissent des choses qui sont pas jolies, jolies. Vous savez, en l'an 2000, on a demandé aux lecteurs du New York Times quels étaient les deux hommes qui avaient le plus marqué le XXe siècle. Et ce qui est terrible, c'est que les lecteurs du New York Times, ils n'ont pas dit Gandhi, ils n'ont pas dit Martin Luther King, ils n'ont pas dit Mère Teresa. Ils ont dit, un, Adolf Hitler, et en deux, son petit copain de l'Est, le père Joseph Staline. Moi, je suis effaré par la fascination qu'a l'espèce humaine par les gens qui font le mal, par les gens pour le sexe, par exemple moi qui travaille Brigitte Lahaie depuis 2009, c'est hallucinant cette pathologie qu'on appelle l'hybristophilie, chers amis auditeurs. Est-ce que vous savez d'ailleurs, mon ami, notre ami Valérie Benaïm vient d'écrire un livre qui s'appelle Il n'est pas ce que vous croyez. Vous savez ce que c'est l'hybristophilie? C'est la fascination qu'ont les femmes pour les tueurs en série. Les femmes ont une fascination tellement pour les tueurs en série que, prenons Landru, il recevait 100 lettres de demande en mariage par jour quand il était en prison. Le fameux Hans Breivik en Suède, là, est demandé en mariage, le Landais, là, qui a tué la petite gamine, il est papa, il a fait l'amour, des dizaines de femmes veulent, et l'autre fou, furieux aussi, de Fourniret. Ça s'appelle l'hybristophilie. Il y a une espèce de truc incroyable dans l'espèce humaine, c'est cette fascination pour le mal, cette fascination pour les gens qui détruisent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous qui avez des origines africaines aussi, hein, métissés africains, vous savez aussi, dans ces pays-là, il y a beaucoup de dictateurs, n'est-ce pas, Benoît Drissou, qui dirigent les pays.
Effectivement. Je suis d'accord avec vous sur le côté un peu dictateur, mais... je pense que la politique africaine reste très compliquée. C'est un sujet très complexe.
C'est compliqué.
Je veux pas trop m'étaler sur ça, mais c'est vrai que non. Voilà, il y a des choses à faire et on espère parfois que les choses bougent aussi. Et le temps, faut être patient. Tout bouge avec le temps.
Alexandre, avant que vous nous quittiez, je crois que vous êtes appelé à des responsabilités. Vous voulez dire quelque chose? De la bienveillance dans votre cercle, dans votre. Si on veut faire partie du CGBB, où va-t-on? Comment on vous trouve?
Si on veut faire partie du CGBB, c'est tout simple, il suffit de se rendre sur notre site cgbb.fr et puis de regarder ce qu'on y dit, et si vous êtes en phase, vous êtes les bienvenus. Pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur devenir membre et de prendre son adhésion.
Et après, il s'y passe plein de
belles
choses.
Venir participer à nos très nombreux événements, puisqu'on organise un peu plus de 250 événements par an, ce qui représente entre 4 et 5 événements chaque semaine.
Eh ben, merci Alexandre d'avoir participé à l'émission, et je pense que beaucoup de gens après cette émission auront envie de venir au CGBB.
Merci à vous Christophe, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous trois.
Merci. Charlotte, je crois que tout ça, ça vous a parlé.
En fait, je voudrais répondre à Frédéric, parce que sa question, c'est est-ce que le karma est un frein, quand même un poids supplémentaire quelque part, parce qu'il n'y a pas que le karma qui nous pèse dans la vie. C'est un frein qui est censé devenir un moteur, c'est-à-dire que si j'ai une mémoire karmique où j'ai été un méchant tyran, je porte en moi l'énergie de l'abus de pouvoir, et c'est cette énergie-là, elle va m'engluer et me peser, me freiner pendant un temps. Mais elle est là aussi pour être transformée. Tout est là pour être transformé. Donc à partir du moment où l'âme a choisi de passer par tel et tel, j'ai envie de dire séphirot, mais en fait tel et tel ingrédient dans sa vie, dans sa vie karmique, dans sa vie transgénérationnelle et tout ça, c'est que ça va être des ingrédients utiles à l'accomplissement ici et maintenant de la destinée dans laquelle on est. Et donc c'est à chacun, et je décris la méthode, comment on transforme concrètement ce plomb, parce qu'il y a une manière de le décoder pour identifier l'or. Donc Frédéric, moi je vous inviterais à regarder c'est quoi ce pseudo-frein que vous pouvez appeler comme ça pour l'instant, parce que ça correspond possiblement à une réalité pour l'instant, de le décrire. Dans mon approche, je propose de mettre des mots sur des mots. Et ensuite, on va transmuter les mots M-A-U-X hein, par des mots, entre autres, M-O-T-S. Et donc, l'idée, c'est de mettre des mots sur les freins ressentis, parce que ces freins, ils sont là pour nous donner un moteur très fort correspondant à un domaine d'accomplissement. Donc, rien n'est frein, même si ça semble l'être. Tout est opportunité d'accomplissement et d'envol. Et il y a une manière de le décrypter.
Ça vous parle comment, Frédéric, tout ça?
Complètement, très très bien. En fait, le karma, c'est ni plus ni moins qu'une blessure nouvelle.
très ancienne blessure.
Voilà. C'est, elle est, la démarche est la même.
Je crois que l'idée quand même, on dit souvent, il y a un dicton populaire qui dit, pour certaines personnes à qui il arrive que des galères, il y a des karmas difficiles, ou il y a des karmas faciles. Finalement, moi j'aime beaucoup cette phrase de Martin Luther King, et je la crois vraie, elle est valable pour cette vie. présente, peut-être d'autres vies comme vous, ça me séduit beaucoup, mais on ne saura jamais. Si on a eu, comme on ne saura jamais s'il y a quelque chose après la mort. Mais il y a une phrase de Martin Luther King qui dit « Il se peut que vous ne soyez pas responsable de ce que vous êtes arrivé, mais vous le devenez si vous faites rien pour le changer. » C'est bien l'idée de la métamorphose qu'on a développée tout à l'heure.
Oui,
on est responsable.
Oui.
Comme dit Huntley dans Invictus, vous êtes le capitaine de votre âme et le maître de votre destinée. C'est vous qui agissez.
Il y a quelque chose, qui m'a fait beaucoup de bien quand sur mon chemin, j'ai entendu et lu des choses qui disaient « Si vous êtes là où vous en êtes, c'est que vous avez votre âme sait que vous avez la capacité de transcender et de dépasser ça. On n'est pas là où on est par hasard. » Donc, si on a une épreuve, souvent, on pense qu'on va rester au fond du trou, qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on est victime et qu'on n'y arrivera jamais. Et puis, on n'est pas aidé par ça, par nos politiques qui nous font penser aussi, ou d'autres.
Ouais.
Et donc, moi, j'ai envie de partager à vous qui nous écoutez que si vous avez une épreuve et quelque chose de très difficile, gardez en tête que, un, vraisemblablement, il en sortira quelque chose de bon, mais que surtout, si vous le traversez, c'est que vous avez la capacité de le traverser pour en faire quelque chose de magnifique.
Benoît, à ce sujet-là, en off, vous disiez parfois que parfois des coups durs, justement, comme le dit Charles de Séguy, peuvent être... Je crois que vous avez eu à un moment donné, dans une vieille histoire, un moment qui a été difficile dans votre vie amoureuse, et finalement, vous remerciez ça parce que ça a sorti votre couple plus fort, et vous-même, ça vous a fait découvrir plein de choses. Vous voulez en parler aux auditeurs ?
Après, moi, j'ai un dicton que ma femme dit toujours, c'est que, en fait, ce qui nous tue pas nous rend plus fort.
C'est une phrase de Nietzsche, ouais.
Et effectivement, de manière générale, ça permet que de rebondir et que d'apprendre. Et ça revient un peu à tout ce qu'on a échangé.
Donc vous avez eu un coup dur monté dans votre couple, c'était un très grand froid, c'est ça ?
C'était un grand froid,
ouais. Et
effectivement, à partir de là, ça a permis de faire une rétro-prospective sur soi.
Et c'est ce moment-là qui vous a permis de...
C'est à partir de ce moment-là où il y a eu certains déclics de grandir autrement, en fait, tout simplement.
Ouais. Et c'est à ce moment-là que vous êtes plus ouvert au développement personnel, à la spiritualité, au travail sur soi.
On répète depuis tout à l'heure que on a tendance à vouloir chercher une solution. En fait, je pense que c'est l'instinct être humain. En fait, finalement, on s'intéresse à des choses, on explore, on lit des bouquins, on essaie de grandir autrement, et finalement, on s'aperçoit que c'est un grand puzzle.
Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, chers auditeurs, c'est que j'avais écrit un livre il y a un an et demi qui s'appelle Merci mon amour, je suis très fier de ce titre. Et si la gratitude était le secret des couples heureux, et une des parties de ce livre, c'était la gratitude malgré tout. C'est-à-dire, évidemment, quand on traverse un coup dur, on n'a pas envie de dire merci tout de suite pour ce coup dur. Pendant qu'on est dans le coup dur, c'est pas simple. Mais il y a, comme dit le dicton populaire, il y a un cadeau là-dedans, à quelque chose, malheur est bon. Et c'est ce que j'appelle la gratitude malgré tout, parce que si on le traverse, je suis entièrement d'accord avec Charlotte, il y a une idée de mouvement, eh bien, il y a de la gratitude à avoir pour ce qui vient de nous arriver. Quand on aura fini de le traverser, on va le trouver, le cadeau. Dans un second temps, c'est pour ça que les coachs américains appellent ça plutôt l'avantage décalé. C'est pas avantage sur le moment, c'est l'avantage décalé dans le temps. A posteriori, en ayant réfléchi à ça, on va y arriver. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore cette phrase de Bachelard. L'éducation de la vie déprave les hommes légers, mais perfectionne ceux qui réfléchissent. Voilà, ce nom-là, s'il y en a qui malheureusement font rien de leurs épreuves. Au contraire, vont s'effondrer et vont pas les travailler. Pour autant, quand même, qu'on ait des épreuves, pour être dans la gratitude malgré tout, faut réfléchir à cette épreuve et il faut comprendre ce qu'on en fait. Là, il y a un cadeau. On va vous remercier vraiment, Charlotte de Silguy. Donc, si on veut vous trouver, faire un coaching alchimique avec vous, on va où?
Alors, j'ai trois sites internet, hein. Un pour les particuliers, un pour les professionnels, et puis une pour se former en ligne soi-même à cette approche. Si vous tapez mon nom, Charlotte de Silguy, sur les moteurs de recherche,
on vous trouvera.
Je pense que vous finirez par me trouver.
Benoît Drissius, si on veut avoir un assureur hors norme, atypique, original et vraiment fin limier, on vous trouve aussi partout sur les réseaux sociaux.
Je suis effectivement disponible sur LinkedIn, donc vous pouvez taper le nom, prénom.
Et on vous trouve sur LinkedIn.
Et effectivement, sur internet, j'ai un site dédié, tout simplement.
Bon, bah écoutez, c'est extraordinaire. Moi, je voulais vraiment vous remercier pour la qualité de cette émission. On est allé très loin. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à l'émission, qui ont posé des questions passionnantes, n'est-ce pas, Charlotte ? Si on avait envie de vous retrouver dans 10 ans, en 2034, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli en 10 ans que vous n'avez pas encore fait ?
À mon rêve, aujourd'hui, c'est trouver la maison qui va pouvoir recevoir des personnes pour travailler ensemble à la transformation de leurs ombres en lumière. Mon vrai rêve, c'est qu'on soit très nombreux à oser traverser les ombres, les tripoter. S'amuser avec pour vraiment en faire de l'or, parce que plus on sera nombreux à le faire, plus les ombres disparaîtront, parce que leur rôle, c'est justement qu'on s'occupe d'elles. Et si on s'occupe pas d'elles, elles vont finir par nous poser des questions. Et donc, une maison dans laquelle je recevrai toutes les personnes qui ont envie de transformer leur plomb en or, ensemble, joyeusement, en s'amusant.
Eh bien, comme disait Rumi, ce que vous cherchez aussi. Donc, cette maison que vous cherchez, vous allez la trouver. Benoît, si on vous retrouve dans 10 ans, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli en 2034?
En même temps, c'est loin, mais c'est proche en même temps. Bah déjà que mes deux enfants se portent très bien. C'est une des premières choses. Et puis que je puisse continuer à m'épanouir dans mon travail et développer peut-être, pourquoi pas...
Votre part spirituelle?
Je le garde pour moi.
Et moi, je vous dirais, chers amis auditeurs, d'abord, toute notre gratitude de énormément écouter et de podcaster cette émission. Deuxièmement, ce que je vous dirais, c'est que finalement, je crois beaucoup en ce que disait Claude Lelouch. Je remercie tous ceux qui m'ont dit non. Ils m'ont permis de rencontrer ceux qui m'ont dit oui. Et ça, c'est très important. Ça fait écho au livre de Charlotte de Silgi. Et deuxièmement, je peux vous dire vraiment cette chose très importante et vraiment rester dans cette dynamique-là. Lelouch la pique, entre guillemets, à Victor Hugo, et je suis Hugo Lattre. Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. On vous embrasse, à la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute de Pour Vivre Heureux, Vivons Coachés.
Pour Vivre Heureux, Vivons Coachés, une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.